choix, quel choix, ô Seigneur, que de te louer parmi les nations. Quelle joie, quelle joie, ô Seigneur, que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations, pour que de par le monde nous fassions connaître son nom. Il nous a envoyés pour prêcher et chanter.
Eh bien, nous voulons aujourd'hui faire cette vidéo, Julia, sur le thème de la joie.
Eh oui, on a choisi la pire journée de l'année, le plus froid, pour parler d'une chose essentielle à la vie chrétienne.
Oui, on appelle ce cours la puissance de la joie. Et c'est vrai, si on a décidé de le faire aujourd'hui, dans cette journée où il ne fait pas si beau que ça, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est parce que nous voulons personnaliser cette vidéo et nous faire comprendre aussi que la joie du Seigneur est notre force et que celle-ci ne doit pas dépendre des éléments extérieurs. Mmh. C'est une joie que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur, n'est-ce pas?
Et je connais un couple qui chantait « Seigneur, nous voulons te remercier pour cette merveilleuse journée, car pour nous maintenant, qu'il pleuve, neige ou fasse grand vent, le soleil qui est dans nos cœurs tous les jours est à son zénith, et devant nos frères et sœurs, on va glorifier ton nom. » Alléluia. Donc on se disait « Allez, on va sortir de l'aurore et on va parler de la joie. »
Et puis la joie, c'est un élément indissociable du royaume de Dieu. La Bible nous dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie.
C'est vrai.
Et la Bible nous montre que les premiers disciples, eh bien, régulièrement, ils étaient dans la joie. Le Saint-Esprit les plaçait dans la joie. Cette expression revient régulièrement en parlant d'eux. Et si nous voyons de près ce qu'ils vivaient, parce qu'ils étaient souvent persécutés, n'est-ce pas, dans cette période, humainement parlant, ils n'avaient pas toujours de raison d'être dans la joie. Ce qui nous fait comprendre que la joie, c'est pas un état d'âme.
Non, c'est un choix.
La joie, c'est un choix. C'est un état d'esprit. C'est une mentalité. Un état d'esprit, une forme de mentalité qu'on choisit de développer sous l'inspiration du Saint-Esprit. D'ailleurs, il y a ce passage dans l'Écriture où même c'est Paul et Silas qui se retrouvent en prison.
Eh oui, parce qu'il faisait vraiment nuit et ils étaient emprisonnés, ils étaient enchaînés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont décidé de louer Dieu, de proclamer ses bienfaits et chanter des louanges de Dieu, même au milieu de leur tempête.
Et là, c'est le coup de le dire, ils ont refusé pendant cette nuit-là, cette nuit terrible pour eux, de broyer du noir. Ils ont proclamé les louanges du Seigneur et c'est ce qui a engendré un miracle. La joie du Seigneur s'est manifestée comme étant leur force et la solution pour leur apporter le miracle dont ils avaient besoin.
Et ils ont décidé que rien ni personne allait enlever la joie d'appartenir à notre Seigneur Jésus.
Et justement, il est arrivé qu'on se retrouve dans des situations où, humainement parlant, on n'avait pas trop envie d'avoir la joie, Julia.
Non, c'est vrai. Il y a eu des moments où on était vraiment effrayés et on voyait que le mal, le tourment était tout autour de nous. Et c'est vraiment à ces moments-là que le Seigneur sent de nos cœurs. Et je me rappelle, il y a quelques années maintenant, après que ma maman est partie, que j'ai gardé à la maison 20 ans et elle me manque encore. Et c'était la semaine où, juste après qu'elle est partie, et on a fait les obsèques 3 jours avant qu'il fallait qu'on parte pour une conférence à Paris. Et le thème de cette conférence était « La joie du Seigneur est ma force ». Et je disais « Seigneur, il faut vraiment que tu m'aides. Mon cœur était tellement rempli de chagrin. Comment j'allais pouvoir juste parler, sourire aux gens, amener la joie aux autres? C'est sûr que c'était un peu brutal, mais je voulais vraiment relever ce défi. Donc, on est parti à Paris. J'avais le cœur un peu lourd, j'avoue. Mais je me rappelle qu'avant la première réunion, on était assis au premier rang et le choral chantait, etc. Et je disais, Seigneur, ok, c'est maintenant, il faut vraiment que tu touches mon cœur. Et à cet instant, c'est comme si j'entendais la voix du Seigneur. Seigneur et qui me disait, Julia, si tu savais quelle joie j'ai d'avoir ta maman avec moi, et si tu savais combien elle est heureuse d'être avec moi aujourd'hui, tu essuierais tes larmes et tu seras dans la joie. Et c'était comme une révélation pour moi. Et j'ai pu me lever, chanter le chant qu'on chante souvent, la joie du Seigneur. Et avec force et avec conviction. Et on a amené ce week-end au bien et beaucoup de gens, ils étaient bénis. Mais je sais que ce n'est pas toujours facile, Claude. Mais je sais aussi une chose, c'est que parce que la joie habite dans nos cœurs, les situations peuvent changer, les temps peuvent changer, le vent peut souffler, la pluie peut tomber comme aujourd'hui. Mais au fond de nous, la joie d'appartenir à Dieu, d'avoir une éternité devant nous, c'est parce qu'on a une espérance en nous que ce monde ne connaît pas.
Lorsque nous prononçons ce passage sur lequel je reviendrai, qui est tiré du livre de Néhémie, « La joie du Seigneur est ma force
ouais. »,
le sens de l'hébreu, c'est pas tant ma joie qui est ma force, c'est la joie que le Seigneur a. Wow. C'est la joie que je donne à Dieu qui devient ma force. Alors bien sûr qu'après c'est ma joie, parce que Dieu étant dans la joie, il me communique sa joie. Tu sais, c'est le principe de quelqu'un qui se met à éclater de rire et puis l'autre à côté, même si c'est pas trop pourquoi, eh bien il se met à rire à son tour parce que la joie est communicative. Eh bien ça marche comme cela. Et je crois que beaucoup de chrétiens ont tendance, et c'est notre défaut un peu à tous au départ, de chercher toujours leur joie, toujours leur paix, toujours leurs intérêts. Non, ce que nous sommes appelés à faire, c'est chercher les intérêts du Seigneur, c'est chercher à ce que Papa Dieu soit dans la joie.
Exact.
Qu'est-ce que je peux faire pour mettre Papa Dieu dans la joie, qui va faire en sorte que de toute façon, par répercussion, cette joie du Seigneur, il va me la communiquer par le Saint-Esprit à son tour, et là, la joie qui est en moi, parce qu'elle vient d'en haut, sera ma force. C'est une nuance, je pense, qu'il est important de réaliser.
On peut lire dans le psaume 30, verset 5, que le soir, il y a souvent des chagrins, des pleurs, mais quand le matin arrive, il y a encore de la joie. Et on sait que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc ça veut dire que tous les jours de notre vie, on a une autre chance d'être heureux.
Même si nous sommes passés par un mauvais moment, nous avons eu des angoisses pendant la nuit, on est toujours là, prêt à repartir sur la base de la joie et non pas la base de la dépression.
Car le matin, chaque matin, on a le choix de voir l'avenir avec l'espérance et de croire dans ce que le Seigneur va faire pour nous ou d'être déçu encore une fois et de commencer la journée tant que victime et déçu avec ce monde. Mais je crois que nous, on a pris l'habitude de renouveler nos forces chaque matin et d'attendre de Dieu qu'il retourne même les pires situations, parce que tant qu'il est sur son trône, eh bien, sa joie nous appartient et nous avons la victoire.
Alors, on ne veut pas donner l'impression à nos auditeurs que c'est toujours simple, que c'est toujours facile.
Absolument pas.
Mais c'est un choix que nous avons fait.
C'est un choix.
Et la joie est un choix.
Même quand il gèle.
Alors, dans Néhémie, au chapitre 8, nous trouvons un enseignement formidable quant à ce que Dieu, je peux dire, attend de nous comme comportement vis-à-vis de certaines situations désagréables.
Ouais.
Et je dirais actuellement, avec le Covid-19, le monde entier vit une situation désagréable. Les Israélites, sous la conduite de Néhémie, ils reconstruisent la ville de Jérusalem. Et lorsque la muraille est rebâtie, eh bien Néhémie décrète un jour de réjouissance devant la face de Dieu, n'est-ce pas? Un jour où on va proclamer les louanges du Seigneur, où on va être, en d'autres termes, dans la joie. Le but de cette journée, c'était d'honorer Dieu et de se réjouir dans sa présence. Et mes amis, vous devez savoir qu'une des manières que notre Père Céleste apprécie pour lui rendre grâce et l'adorer, c'est qu'on soit dans la réjouissance,
oui,
qu'on manifeste sa joie de lui appartenir, la joie d'être sauvé, n'est-ce pas,
dans l'unité, d'être ensemble. Oui.
Donc le but de cette journée est d'honorer Dieu et de se réjouir dans sa présence. Et on amène alors les livres de la loi et on les lit au peuple. J'aime bien ce passage de Néhémie, chapitre 8, verset 7, qui dit que les Lévites expliquaient la loi, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils lisaient. Et ça ne suffit pas de lire la parole de Dieu, la Bible, il faut une révélation du Saint-Esprit, et il faut aussi des ministères que Dieu a établis pour expliquer la parole. Sinon, nous pouvons être en danger avec cette parole même qui est supposée nous apporter la vie. En fait, c'est une parenthèse.
Bien sûr.
Et à l'écoute de ce qui est écrit dans le livre de la loi, le peuple sent alors sa misère, la misère de son péché, des péchés de ses pères. Et les gens commencent à pleurer de tous les côtés, à être dans la désolation. Et c'est un parallèle aussi qu'on peut faire. Lorsqu'on vient au Seigneur, qu'on prend conscience de ses péchés, mm-hmm, de sa misère.
On passe d'abord par la repentance.
On passe par la repentance et Bien sûr. On se retrouve momentanément dans un état de tristesse.
Bien
et
sûr.
Je voulais vous dire que lorsque la tristesse est légitime, elle est une bonne chose à condition qu'elle soit passagère. Mm-hmm. Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas de nous voir dans la tristesse continuelle. Dieu aime nous voir dans la joie, nous l'avons déjà dit tout à l'heure. À partir de là, le peuple commence à partir dans la mauvaise direction. Il se laisse envahir par la tristesse. Il y a une différence entre avoir de la tristesse, légitime, je le disais tout à l'heure, et puis se laisser envahir par la tristesse. Parce qu'alors, elle va finir par nous plonger dans la dépression.
Il ne faut pas qu'on s'installe dedans et que ça devienne un mode de vie.
Ce n'est pas ce que Dieu a prévu.
Non.
Cette journée de consécration n'est pas loin de virer à un jour de deuil et de déprime. L'attitude des Juifs de l'époque est en train de faire foirer le plan original qui consistait à se réjouir dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Néhémie et les Lévites disent alors au peuple, ce jour est consacré à l'Éternel. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Et il leur précise, ne vous affligez pas, c'est là qu'on a ce fameux verset qui vient d'ici, car la joie du Seigneur sera votre force.
Et bien voilà.
Et nous l'avons précisé tout à l'heure, le fait que Dieu soit dans la joie sera votre force. Mm-hmm. Parce qu'alors il vous communiquera sa joie. C'était une journée prévue pour être une journée de joie. Il y a des moments où Dieu veut que nos journées soient des journées de joie, mais le diable a décidé que ce seraient des journées de tristesse. Et nous devons faire le choix entre la volonté de Dieu et la volonté du diable.
Ou de fixer nos yeux sur tout ce qu'il y a encore à faire et toutes nos imperfections, plutôt que de fixer nos yeux sur ce que Dieu a déjà fait et de se dire, mais on avance, on va arriver. Alléluia, Dieu il est au milieu de nous et il veut nous encourager pour y aller en avant. Et il est content avec nos efforts.
Oui.
Mais oui.
Et le diable utilise justement souvent, je dirais, nos émotions distorsionnées. La culpabilité. Ce sentiment parfois qu'on croit légitime de devoir culpabiliser alors que Dieu a déclaré que nous sommes purs devant ses yeux. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont été malheureusement amenés à la tristesse légitime par la repentance, mais après on les a laissés là. Et on a continué à ajouter toujours que plus de tristesse dans leur vie, si bien que la vie chrétienne est devenue une vie triste.
Oui, parce qu'ils fixent les yeux que sur ce qui ne va pas. Oui. Et ça, il faut encore régler,
Alors que l'objectif dans la vie chrétienne, ce n'est pas la tristesse.
Non.
La tristesse, c'est juste un passage pour
Exactement.
Prendre conscience de certaines choses. L'objectif, c'est la joie, parce que dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Et la Bible dit que les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous !» Et il y a des moments dans la vie où il faut tout simplement se taire. Les Hébreux ont failli faire foirer cette journée, si je peux dire, qui était consacrée au Seigneur, n'est-ce pas? Et il a fallu que Néhémie et les Lévites appellent à la volonté du peuple, c'est-à-dire qu'ils mettent en action leur volonté pour choisir de se détourner de cette tristesse destructrice pour choisir la joie du Seigneur. Donc il y a un effort de notre volonté, qui doit rentrer en ligne de compte pour choisir la joie au lieu de choisir la dépression pour certains, au lieu de choisir l'abattement, au lieu de choisir de regarder à ce qui nous entoure pour que cela dirige notre vie et nos émotions, mais pour regarder à la volonté de Dieu et se laisser inspirer par l'Esprit de Dieu qui veut nous communiquer la joie.
N'oublions pas que la joie, ça fait partie de l'expression de fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Donc c'est normal que régulièrement, eh bien, on peut exprimer cette joie de vivre, tout simplement, d'être en vie et de vivre éternellement. Alléluia. Et en plus, la joie, c'est contagieux.
Hein?
Quand il y a qui commence à rire, vous avez remarqué? Ensuite, à un moment donné, c'est facile que tout le monde se met de bonne humeur. On devrait être des personnes qui allument vraiment une ambiance joyeuse et festive régulièrement dans nos églises aussi.
C'est pourquoi il y a une onction de joie aussi.
Ah.
Beaucoup de gens ont critiqué ce qu'on appelait à une époque l'onction de Toronto. C'était une véritable visitation du Saint-Esprit sur son peuple pour communiquer une nouvelle dimension dans la connaissance de Dieu le Père, mais aussi pour les plonger dans la joie. Et sous cette onction, des gens, et nous l'avons vécu aussi, se retrouvaient ou se retrouvent encore en train de se rouler par terre de joie. Et ça peut même durer pendant des heures, parce que cette onction est là, non pas juste pour qu'on rit, mais pour nous guérir. Et quelqu'un dira, mais est-ce que c'est biblique et tout ça? Eh bien, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a été répandu, on se rend compte que les gens prophétisaient sous l'onction de l'Esprit. Ils parlaient en langue, bien sûr, il y avait des flammes de feu. Mais ceux qui passaient, qui les voyaient, ont eu une réflexion.
Ils ont bu, ils sont pleins de vin doux.
Pourquoi ils ont raisonné ainsi? C'est parce que les gens qui voyaient avec un comportement de personnes ivres. Et c'est ce que font les enfants aussi.
C'est vrai.
Et donc cette onction nous ramène quelque part à être comme les petits-enfants. Et c'est pour ça qu'elle est souvent méprisée par les gens religieux. C'est pas assez spirituel pour eux. Et ce que nous voulons, c'est pas être spirituel aux yeux des gens religieux, c'est être loin de l'esprit, c'est être visité par l'onction du Saint-Esprit, qui est une huile de joie, et on va y revenir parce que c'est l'onction qui caractérisait la personne et le
même
ministère de Jésus.
Exactement. Chronique 16, verset 27, ils disent « La majesté et la splendeur sont devant sa face, et la force et la joie sont dans sa demeure. Moi, je vais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, mais éternellement, bien sûr, mais pourquoi pas profiter de la joie de Dieu et de sa présence dans sa demeure ?» Ici-bas, moi je vais être, moi je suis fière d'être connue comme quelqu'un, il paraît, un peu joyeuse, mais ce n'est pas ce n'est pas quelque chose que je cultive, c'est juste que le Seigneur m'a fait comme ça. Mais je pense qu'il aimerait vraiment partager sa joie. Et je prie qu'aujourd'hui, vous allez être remplis de sa joie et de quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de vous. Vous savez, la joie, ça ne se contient pas, ça se partage. Et même ce verset, Claude, qui disait que Jésus tressaillit de joie.
Oui, d'ailleurs, c'est bien que tu fasses ce mouvement, parce que lorsque Jésus prie, Père, je te remercie de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants, la Bible dit qu'il tressaillit. Et nous, dans notre concept très européen de tressaillir, c'est hop, il a un petit peu bougé, n'est-ce pas? Mais le terme grec sous-entend qu'il tournait sur soi, n'est-ce pas? Donc il a fait cette prière en bougeant, voire éventuellement en sautant et en criant. Et d'ailleurs, j'aime bien la traduction de Parole vivante qui rend que Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit. Wow. Il tressaillit, ça signifie littéralement qu'il fut transporté de joie par le Saint-Esprit. Et donc, je crois que nous sommes appelés, les uns et les autres, à laisser le Saint-Esprit nous transporter régulièrement de joie et que nous n'avons pas à en avoir honte. Ce qui caractérisait le ministère de Jésus, c'est qu'il était loin. Quand on parle du Messie, du Christ, ça veut dire loin, celui qui vient avec son onction, selon le sens de ces termes grecs et hébreux. Donc, ça nous rappelle ce passage d'Ésaïe, Julien, qui dit l'Esprit
du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint.
Et Jésus était oint pour faire des choses particulières, libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés, guérir les cœurs brisés, apporter de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Et chrétien vient du mot Christ. Donc, si Christ signifie oint, chrétien signifie petit oint ou oint. Qui est appelé à marcher sur les traces de loin des oints Jésus-Christ pour faire les mêmes choses. Mais Jésus était oint d'une onction particulière.
Oui.
Et la Bible précise même qu'il était oint de cette onction par privilège par rapport à ses collègues. Selon les traductions, par supériorité vis-à-vis de ses collègues. Qui étaient ses collègues? C'était les prophètes qui étaient parus avant lui. Donc Jésus n'était pas oint de l'onction dont Élie était oint. Aussi grand fut ce prophète, dont Moïse était oint, dont Jean-Baptiste était oint, parce qu'il y a plusieurs formes d'onction, n'est-ce pas, qui sont des expressions du Saint-Esprit. Il était oint d'une huile propre à son ministère,
qui était
une huile de joie. La Bible nous dit, waouh.
On a du mal à imaginer Jésus oint d'une huile de joie. On imagine toujours Jésus
qui
marchait très sérieux. Et il était certainement à certains moments. Quand il fallait l'être.
Sérieux.
Mais d'autres fois, on le voit autour de ses disciples, autour d'une table, en train de partager le pain et de se réjouir d'être ensemble. Et combien il a même dit, mais réjouissez-vous encore pendant le temps que je suis là. Hein? Donc c'est important de
réaliser. Et il n'est pas possible d'être oint d'une de joie, c'est être quelqu'un qui rit régulièrement et qui est régulièrement dans la joie,
oui.
N'est-ce pas? Et si Jésus était oint d'une huile particulière, et l'Écriture nous précise que c'était une huile de joie, c'est parce que c'est ce qui doit caractériser l'onction qui habite en nous. Hein? Jean s'adressant aux chrétiens, il leur dit, vous avez reçu l'onction qui vient de lui, une onction qui est liée à la joie, c'est-à-dire qui est indissociable de la joie. Et c'est pourquoi le diable fait tant d'efforts pour nous plonger dans la tristesse, parce que lorsqu'il arrive à nous éloigner de la joie, si je peux dire, il nous éloigne de la puissance de l'onction.
Et la vie même.
Tout à fait. Et donc il est important de réaliser la nature de l'onction qui était l'onction qui résidait sur Jésus et qui est supposée résider sur nous, les chrétiens, les petits Christ. Nous avons été oints pour accomplir des miracles, pour accomplir des guérisons et des délivrances. Et nous devons réaliser d'ailleurs que la délivrance est indissociable de la puissance de la joie.
Quand l'adversaire veut t'abattre et quand il veut te déprimer.
Je ne sais pas si vous voyez, mais là le temps il se gâte, il fait froid, il commence à pleuvoir. Et on est là en train de rigoler tout
seul. On a parlé sur la joie du Seigneur.
On est en train de
Et on prie vraiment qu'à travers ce cours, cette joie vous soit communiquée.
Ah oui, oui, et quel plaisir de passer ce temps, ce beau temps avec vous.
Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'onction de joie est liée à la délivrance. Et là, il y a une révélation peut-être à apporter à nos amis. Je me rends compte que souvent, ce qu'on appelle les ministères de délivrance, ils ont rendu ça un peu trop sérieux. Et le diable aime qu'on le prenne au sérieux. Or, la Bible nous dit que Dieu du haut des cieux, il rit de ses ennemis. Et je voudrais vous apporter peut-être notre angle des choses, une autre vision sur la délivrance, et vous dire que la délivrance, elle peut être encore plus effective pour chasser les démons, pour les tenir à distance, lorsque nous sommes dans la joie du Seigneur. Il est dit par exemple dans le psaume 126, verset 2, « Quand l'Éternel ramena les captifs, donc délivrance, alors notre bouche fut remplie de rire et notre langue de chants de joie. »
Waouh !
Il y a cet autre verset aussi qui est pas mal du tout. Ésaïe 61:10, « Je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source, j'exulterai à cause de mon Dieu parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut, waouh! Le mot salut signifie autant être guéri qu'être délivré, hein? Le terme hébreu ou grec. Néhémie 8, 9, 10, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. n'est-ce pas? Car la joie de l'Éternel sera votre force. Nous l'avons cité tout à l'heure et nous avons besoin particulièrement de la manifestation de la force de l'Éternel lorsque nous sommes confrontés aux puissances démoniaques. Donc la joie est une attitude de victoire. Dieu se rit de ses ennemis. La joie, c'est une arme aussi. Tu sais, en plein milieu de la nuit, lorsque parfois nous sommes attaqués par des angoisses, par des pensées négatives, ces journées où on est fatigué, reviennent, n'est-ce pas, très négatives, eh bien la meilleure chose à faire, c'est pas de rester dans le lit et d'essayer de les gérer par ses propres forces, c'est de se lever et de commencer à rire.
Et de
rire
Dieu.
De nos ennemis, de rire vis-à-vis des plans de l'adversaire.
Absolument.
Et là aussi, eh bien, si on n'est pas visité par une onction particulière, eh bien on va faire le choix d'aller vers le rire plutôt que d'aller vers l'angoisse. Parce que le rire, c'est une arme. Et d'ailleurs, on se rend compte aussi, et je dirais c'est aussi de thérapie, qu'il y a des gens qui payent pour suivre des formations pour réapprendre à rire parce qu'on s'est rendu compte que le rire est une thérapie.
C'est
qui
ça.
Nous aide à sortir de la dépression et à être en bonne santé.
Bien sûr.
Donc ça, c'est une loi naturelle.
C'est une loi naturelle qui est déjà dans l'air.
Que même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ont découvert à plus forte raison, nous qui avons l'Écriture,
et
qui nous révèle, n'est-ce pas, que la joie du Seigneur est ma force.
La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force.
Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai eu une vision et je voyais une chaîne de montagnes. Et au-dessus, il y avait des nuages blancs. Et en fait, c'était comme si ces nuages étaient le pan de la robe de Jésus.
Oui.
Et je voyais deux pieds qui, les orteils touchaient les sommets des montagnes et dansaient. Et devant ça, il y avait une grande plaine. Et je descendais dans la plaine et je voyais autour de moi, il n'y avait que des personnes astropiées et par terre, comme si c'était après une grande bataille. Il n'y avait que des corps éparpillés partout. Et je disais, oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Et voilà, il y a Jésus qui arrive et il commence à danser autour des personnes et toucher les mains. Et chaque fois, quelqu'un il se levait et se mettait à danser avec lui. Et il touchait quelqu'un d'autre. Et une autre personne se levait et commençait de danser. Et moi, j'ai commencé de faire les mêmes choses. Et voilà, toutes les personnes se revenaient à la vie et commençaient d'entrer dans la danse. Et je me rappelle, il y a quelques années, j'ai tombé sur ce passage en Proverbe 8:30 et qui parle justement de Jésus.
Tu veux que je le lise?
Si tu veux. Et ça parle vraiment de qui était Jésus, même avant que la terre était comme on le connaît aujourd'hui, et les relations qu'il avait avec le Créateur, son Père.
Ouais, Proverbe 8:30, j'étais à ses côtés comme son maître d'œuvre, sans cesse objet de ses délices. Je dansais devant lui, selon les traductions, ça c'est la traduction du semeur, je dansais devant lui jour après jour.
Jouant sur la surface de la terre et réjouissant parmi les hommes.
Ouais.
Et Jésus, il est là pour nous rendre la vie, pour relever les maux, les astropiés, pour guérir, pour donner la vie et pour nous donner la joie de vivre. Merci Seigneur. J'avais à cœur de partager cette vision avec vous parce que je crois que si on vit les choses qu'on vit aujourd'hui, plus que jamais on a besoin de garder cette joie à l'intérieur de nous et de passer du temps avec Jésus qui était loin d'une ville de joie.
Et dans ta vision, la joie était un des supports, une expression de Jésus pour la guérison de ceux qui avaient besoin d'être relevés et transformés.
Merci Seigneur pour ta joie.
Alors voilà, pour terminer ce cours sur la puissance de la joie, parce qu'on a envie de rentrer maintenant
au pain de chocolat chaud. Et à travers ce cours, nous souhaitons que vous puissiez vraiment recevoir une bonne dose de joie de la part du Seigneur et que dans l'avenir, vous soyez connu comme quelqu'un qui amène la joie du Seigneur partout où vous y allez.
Voilà, nous vous laissons avec cette exhortation de l'apôtre Paul. Soyez toujours joyeux.
Amen.
Qui n'est pas un état d'âme, mais un état d'esprit.
C'est un choix.
Que le Seigneur vous bénisse.
Au revoir. Ha ha ha!